Notre ADN est vraiment très proche de celui de la Chine. Mais pour nous, c'est très clair. Nous faisons partie de Taïwan.
La Chine est toujours considérée comme vitale. On ne peut pas se passer des échanges économiques avec la Chine. Mais elle n'est plus considérée comme bénéfique à l'économie taïwanaise.
Personnellement, je défends bien sûr l'idée de l'indépendance. Mais les conditions de l'indépendance font que le prix à payer est trop élevé. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de dire « je veux l'indépendance, alors on y va, c'est possible ».
D'un seul coup de fil, elle a failli détricoter le consensus de 1992 qui permet à Pékin et Taipei de cohabiter pacifiquement. D'un seul mot, il a failli faire voler en éclats ce statu quo en l'appelant « Madame la présidente de Taïwan ». Mais c'est bien elle, Tsai Ing-wen, élue effectivement à la présidentielle de 2016 dans cette petite île séparée de la Chine continentale par le détroit de Formose, c'est bien elle qui a pris l'initiative d'appeler son homologue Donald Trump le 2 décembre dernier pour le féliciter. Et comme à son habitude, celui qui n'était pas encore installé à la Maison Blanche s'en est vanté sur Twitter. Il a ainsi d'un petit tweet balayé 37 ans de diplomatie américaine, plus exactement de non-diplomatie qui veut qu'il n'y ait aucun contact direct entre Washington et Taipei. Il faut se souvenir qu'en 1971, la communauté internationale a accepté de voir Pékin représenter seule la Chine à l'ONU. Elle a donc retiré son siège à la petite île taïwanaise qui, depuis l'après-guerre, vivait dans la fiction d'incarner l'ensemble du monde chinois. Depuis cette date, rares sont les États qui ont osé braver les foudres communistes pour engager un vrai dialogue direct avec Taïwan. D'ailleurs, Donald Trump s'est adouci depuis ce fameux coup de fil. Il a réaffirmé en février dernier le principe d'une seule Chine. Et jamais Taipei d'ailleurs ne dira officiellement autre chose, de peur que le milliard de Chinois voisins ne fasse qu'une bouchée de ces 23 millions de Taïwanais. Mais en élisant Madame Tsai en janvier 2016, le mouvement des tournesols a bien semé un parfum de nationalisme, voire d'indépendance, qui n'est pas près de s'évanouir. Taïwan, un avenir made in China, c'est un reportage signé Sarah Mackey. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité aujourd'hui Françoise Mangin, qui est directrice de recherche aux séries Sciences Po. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de Taïwan, bien sûr. Je vais citer l'un de vos ouvrages. Vous avez publié « Fragments d'une guerre inachevée, les entrepreneurs taïwanais et la partition de la Chine » chez Cartala en 2013. Un ouvrage qui a été traduit chez OUP et Hearst en anglais depuis donc en 2015. Et nous sommes aussi avec Mathieu Duchâtel. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint du programme Asie au sein du Conseil européen des relations internationales, qui est un think tank européen. Vous avez publié « Le monde vu d'Asie », qui est un ouvrage coécrit avec Max Janzins et avec Guilbourg Delamotte, chez Piquet 2013. Et nous sommes avec Sarah Mackey. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Vous rentrez de Taïwan et avant de plonger avec vous, avec votre reportage au cœur de la jeunesse de ce pays qui a pris conscience de tout son potentiel assez récemment, au moment de ce mouvement des tournesols, il faut faire un petit rappel historique. Cette génération est née après la démocratisation, car jusqu'en 1987, la loi martiale était imposée sur l'île de Taïwan.
Oui, Tara, retour d'abord durant la Seconde Guerre mondiale. Taïwan est alors colonisé depuis 50 ans par les Japonais, la dynastie des Qing ayant cédé l'île à l'Empire du Japon après leur défaite en 1895. Avec la défaite japonaise en 1945, Taïwan revient à la Chine où le Parti communiste prend le pouvoir en 1949. Les troupes nationalistes menées par Chiang Kai-shek se replient alors à Taïwan en attendant, selon eux, de reprendre un jour la Chine continentale aux communistes. Les institutions du parti nationaliste, le Kuomintang, fondé en 1912 par Sun Yat-sen en Chine continentale, sont alors elles aussi rapatriées à Taïwan. Et c'est ce parti qui a dirigé l'île sans interruption depuis 1949, année où la loi martiale est instaurée. Loi martiale qui durera donc, vous l'avez dit, jusqu'en 1987. À noter quand même une alternance politique au niveau de la présidence de Taïwan entre les années 2000 et 2008, mais avec un parlement encore à majorité Kuomintang. La véritable alternance politique à Taïwan a eu lieu lors des dernières élections. Il y a un an, Tsai Ing-wen est élu du Parti démocrate progressiste, le DPP, le parti, principal parti d'opposition, a donc, comme vous l'avez dit, remporté largement les élections présidentielles et législatives.
Alors on écoute Sarah, votre reportage.
The passport. You want to watch it?
Vous voulez voir mon passeport? Je vais vous le montrer.
Donc c'est un passeport vert avec écrit République de Chine, Taïwan.
If we want to go to China, we have another passport.
Si on veut aller en Chine, on a un autre passeport.
Vous avez un passeport différent si vous voulez aller en Chine parce que votre passeport taïwanais en Chine n'est pas reconnu.
Oui.
D'accord, donc là on a un autre passeport qui là est d'un vert un peu plus clair, qui est entièrement, donc il n'y a pas la traduction en anglais, il n'y a pas écrit Republic of China, c'est juste écrit avec des caractères mandarin, chinois. Qu'est-ce qu'il y a écrit ?
It's like a Taiwan people.
Les gens de Taïwan.
Because if we go to mainland China,
parce que si on va en Chine continentale, on doit prendre ce passeport, le passeport taïwanais qui nous permet de sortir de Taïwan. Et pour revenir ici, on utilise l'autre passeport. Et si on voyage ailleurs qu'en Chine continentale, on utilise celui-là, mais de nouveau l'autre quand on revient.
Parce que la France, par exemple, ne reconnaît pas Taïwan comme un pays.
Yes.
Mais par contre, quand vous voyagez avec votre passeport taïwanais, ça pose pas de problème.
Yes. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin de visa. On peut voyager pendant 3 mois.
Deux passeports pour les Taïwanais, alors que le pays n'est reconnu que par une vingtaine d'autres dans le monde et seulement par le Vatican en Europe. Taïwan, l'île aux 16 peuples autochtones, tour à tour colonisée par les Japonais et investie par des vagues d'immigration chinoise. Question aujourd'hui, comment cette société taïwanaise multiethnique peut construire une identité forte et s'affirmer face aux géants chinois ?
Le pouvoir Katagaran, depuis plusieurs années, c'est le lieu de rassemblement pour les manifs.
À Taipei, la capitale, face à l'imposant palais présidentiel, des autochtones, en majorité des Amis, manifestent pour leurs terres. Michel Cole assiste au rassemblement. Journaliste à Taïwan depuis plus de 10 ans, il est spécialiste des questions de défense.
Depuis 5-6 ans, c'est l'endroit où tous les manifestants se rencontraient pour différentes causes.
Et là, on a un peu les différentes strates de l'identité taïwanaise avec cette manifestation de communautés autochtones ou Premières Nations, ouais. Avec derrière ce palais présidentiel plus moderne, on va dire, de l'identité. On a un peu plusieurs strates de l'identité taïwanaise.
Oui, on a fait le palais présidentiel qui avait été construit par les Japonais pendant l'époque coloniale. Et on voit les gens qui sont alentour, qui ne sont pas nécessairement autochtones, sont des Taïwanais, sont des Han.
C'est quoi, des Han?
Han, c'est ce que c'est, l'ethnicité chinoise, ceux qui sont arrivés après 1949. Mais maintenant, ils sont deuxième, troisième génération Han. Donc les jeunes, évidemment, s'identifient en tant que Taïwanais et non en tant que Chinois. Mais comme toute société multiculturelle, bon, grâce aux garanties de sécurité américaines depuis le début de la guerre froide, bon, la République de Chine ou Taïwan a réussi à maintenir une souveraineté distincte. Et au fil des ans, il y a une appartenance à Taïwan, une identification à Taïwan qui s'est consolidée, qui contraste de plus en plus avec ce qui se produit présentement en Chine continentale.
Là, on parle d'un traité de défense avec les États-Unis. Alors, il faut clarifier les choses. Taïwan n'est plus reconnu, par exemple, par l'ONU, par des institutions internationales. Mais il y a ce traité de défense. Alors, depuis quand Taïwan n'est plus reconnu? Et c'est quoi ce traité de défense? Donc, si Taïwan est attaqué, les États-Unis arrivent?
Bon, officiellement, ce n'est pas un traité de défense. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle le Taiwan Relations Act et les Six Assurances. Donc, ce sont des documents à l'échelle du Congrès. Bon, il y a toujours un débat. Est-ce qu'on dit, est-ce que ça oblige les États-Unis à intervenir ou ça encourage les États-Unis à intervenir? C'est une question qui n'est pas entièrement résolue. Mais selon le Taiwan Relations Act, le gouvernement américain, si Taïwan était attaqué sans avoir provoqué, il devrait, en théorie, y avoir une prise d'action de la part de Washington. Alors, quelle serait cette prise d'action? Est-ce que ça serait de nature militaire? On ne le sait pas vraiment. Il y a une certaine ambiguïté qui existe toujours depuis 1979, alors que Washington a établi les relations avec Pékin. De plus en plus aussi, on s'attend à ce que le Japon joue un certain rôle si jamais Taïwan est envahi ou attaqué par la Chine. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, mais évidemment, pour certains pays, c'est essentiel que Taïwan continue à avoir une existence distincte. Bon, évidemment, il y a la nature de sa démocratie aussi qui est un exemple à suivre pour le reste de la région. Je crois personnellement que ça doit être... c'est d'une grande valeur et ça doit être défendu. Mais évidemment, dans le monde de la politique, ce ne sont pas seulement les valeurs démocratiques. Souvent, on parle de réalisme, surtout sous président Trump, on ne sait pas trop quoi s'attendre. Mais reste quand même que Taïwan, géographiquement, a un rôle à jouer pour ne pas permettre à la Chine continentale de contrôler l'océan Pacifique, par exemple, et de menacer d'autres pays dans la région.
En termes diplomatiques, les États-Unis reconnaissent le consensus de 1992 qui définit une Chine unique. Les relations entre Washington et Taipei sont rompues depuis 1979. Sauf que le 2 décembre dernier, Donald Trump, alors juste élu, accepte l'appel téléphonique de la présidente taïwanaise. Stéphane Corcuff, directeur du CEFC à Taipei, le centre d'études français sur la Chine contemporaine, a vécu le moment depuis Taïwan.
Passé l'effet de surprise qui était très fort, puisque personne n'avait imaginé que Taïwan ferait ça, les gens ont commencé à réfléchir aux suites, qui n'ont pas tardé à arriver d'ailleurs. Alors, rares ont été ceux qui ont espéré, imaginé qu'il y aurait des suites considérablement positives pour Taïwan, du genre une reconnaissance de Taïwan comme État. C'était impossible. Très peu ont fantasmé dans cette direction. Beaucoup se sont dit que c'était en tout cas une occasion pour les médias internationaux de parler de Taïwan. Et effectivement, on a vu une couverture médiatique de la question de Taïwan au point que beaucoup de gens ont commencé à se dire « Ah tiens, mais Taïwan, oui, c'est un point intéressant, c'est où ?» Ça a été effectivement tout bénef pour Taïwan. Cela dit, les réactions chinoises se sont très vite faites sentir à partir du moment où Trump a confirmé qu'il n'avait pas du tout agi sur un coup de tête et qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il était déterminé à dire à la Chine ce que beaucoup de présidents avant lui, tous en fait, depuis 40 ans, n'ont jamais osé dire. Et du coup, ce qu'on a réalisé petit à petit, c'est que même si ça n'aboutissait pas sur une élévation du statut de Taïwan en termes de reconnaissance internationale, etc., la posture agressive de la Chine est apparue beaucoup plus clairement.
Hi, Tian, it's Sarah.
Hello, you are downstairs?
Yeah.
Okay. Arrivé chez Tian et sa femme Xia Ling, deux Taïwanais dans la trentaine, de leur appartement vu sur la tour 101, gratte-ciel haut de plus de 500 mètres, emblème de Taipei. Mais le couple ne regarde pas la tour bleu turquoise car aujourd'hui, ils s'activent en cuisine. Lui ne parle que mandarin, elle préfère le taïwanais. Xia Ling a grandi sur une petite île taïwanaise très proche des côtes de la Chine continentale. Une île qui a connu les bombardements chinois lors des trois crises du détroit de Taïwan en 1954, 58 et 1995. Une île face à laquelle 1500 missiles chinois sont toujours pointés aujourd'hui.
Grandir si près de la Chine continentale ne m'avait pas marqué quand j'étais petite. La seule chose, c'est qu'on pouvait la voir sur l'autre rive quand on était en bord de mer. Par contre, suite à la deuxième crise du détroit de Taïwan en 1958, il reste encore de nombreux vestiges des bombardements. À Jinmen, il y a beaucoup d'anciens sites, de bâtiments ou de blocos qui avaient été construits en cas de guerre. Cela m'a donné l'impression de grandir dans une importante base militaire. C'est seulement avec l'âge que j'ai réalisé à quel point on habitait près de la Chine continentale. Notre langue taïwanaise est différente de celle parlée sur l'île principale de Taïwan. Notre taïwanais est plus proche de celui de la Chine, de la langue du Fujian. Notre ADN est vraiment très proche de celui de la Chine. Mais pour nous, c'est très clair. Nous faisons partie de Taïwan.
Bon, alors là, ça organise une sorte de petit karaoké avec une chanson en taïwanais.
Kim ya, ling hong sen ho lai bui puan, ding hui jiu ya, lan gou duan.
Ces derniers mois, les tensions militaires s'accentuent entre Pékin et Taipei. Et chez Tian et chez Aling, les discussions se multiplient. Tian a fait son service militaire obligatoire sur l'île pour les hommes. Longtemps, la Chine a été désignée comme la grande ennemie de l'armée taïwanaise. Le discours est plus modéré aujourd'hui et le couple se demande s'il se battrait en cas d'attaque chinoise.
Nous avons abordé la question des chants militaires. À l'origine, les paroles étaient assez dénigrantes envers la Chine. avec des mots comme « bandit communiste ». Mais quand j'ai fait mon service militaire, ces mots avaient déjà disparu. Il ne s'agissait plus que de protéger le pays. Les chants contenant des paroles trop problématiques avaient été abandonnés, ou alors le vocabulaire modifié. Par exemple, les bandits communistes ont été transformés en ennemis. Il s'agit plus de s'opposer à toutes sortes d'ennemis possibles. En revanche, en ce qui concerne l'éducation, la Chine est toujours considérée comme la mère patrie. Cela n'a pas changé. Mais pour revenir à la possibilité d'une guerre, c'est sûr que je me battrai. Que j'ai envie ou pas, je sais que je me battrai. Mais c'est trop difficile de répondre à cette question. Personnellement, je défends bien sûr l'idée de l'indépendance. Mais les conditions de l'indépendance font que le prix à payer est trop élevé. Ça aurait de nombreuses conséquences. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de dire « je veux l'indépendance, alors on y va, c'est possible ». Mais dans mon cœur, c'est ce que j'aimerais. Je suis sûr que la jeune génération de Taïwanais est d'accord, en majorité. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui veulent la réunification. Et entre les deux options, l'indépendance et l'unification, le statu quo est un moindre mal.
Le statu quo, choix de la majorité des jeunes Taïwanais par peur des conséquences d'une indépendance. Mais cette génération, qui a grandi après la levée de la loi martiale en 1987, réfute quand même à leurs parents et surtout à leurs grands-parents, pour beaucoup venus de Chine, un héritage qui serait automatiquement chinois. Au printemps 2014, cette nouvelle génération, jusque-là assez effacée, s'est affirmée. Des étudiants ont bloqué le Parlement taïwanais et dénoncé un accord commercial entre Taipei et Pékin.
Ils ont réussi à faire plier la Chine à eux tout seuls. Je pense que c'est un détail énorme de l'histoire mondiale.
Stéphane Korkuff, directeur du CEFC à Taipei.
Je crois que l'une des conséquences a été que le débat public a été plus simple sur des sujets compliqués. Il faut savoir que quand les tournesols ont eu lieu, le parlement qu'ils ont occupé était sous domination du Kuomintang depuis 1947, sans interruption. Donc je crois qu'on n'a pas d'autre exemple au monde d'un parlement qui a été dominé par le même parti, avec une majorité absolue, sans interruption, depuis tant d'années. Alors, c'est pas dire que Taïwan n'était pas démocratique, la démocratisation a commencé en 1988, mais c'est quand même un facteur d'inertie ou de résistance au changement. Ça a toujours été la même idéologie, c'est-à-dire protéger l'objectif de la réunification ultérieure et avec peu de considération pour l'environnement ou la question de l'identité taïwanaise, par exemple. Donc, en fait, le mouvement des tournesols a fait exploser un certain nombre de certitudes. Une certitude de « il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est trop compliqué, voilà, la question nucléaire, les relations avec la Chine, etc. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de jeunes qui hésitaient encore sur leur identité, ou plutôt qui étaient certains d'être taïwanais, mais pensaient que la question de l'identité chinoise de Taïwan était une donnée indiscutable, ils ont réalisé à cette occasion que l'identification culturelle à la Chine n'est pas du tout synonyme d'un impératif de réunification et que la citoyenneté taïwanaise est une donnée non seulement légitime mais confirmée par les faits. Et donc ça les a aidés à réaliser qu'il est légitime de se dire taïwanais. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est que ça a permis la création de nouveaux partis qui sont marqués beaucoup plus clairement par l'option indépendantiste de Taïwan. Une quatrième conséquence, c'est que les négociations avec la Chine sont arrêtées. Et elles ne sont pas arrêtées depuis l'avenue au pouvoir de Tsai Ing-wen. Contrairement à ce que dit la Chine, elles sont arrêtées depuis les tournesols. C'est-à-dire depuis, on n'a signé aucun traité, la dynamique a été totalement arrêtée par cette poignée d'étudiants. Ils étaient quand même quelques milliers, mais enfin, ils avaient eu face à eux la Chine. Et c'est un exemple unique dans le mouvement Occupy dans le monde. Ce n'est pas un détail anodin, ça s'est passé à Taïwan en avril 2014 et on ne le dit pas assez.
Le 28 février à Taipei, boulevard Katagalan. Banderoles indépendantistes et photos du Dalai Lama pour un rassemblement en marge des commémorations des 70 ans du massacre du 28 février 1947. Le début alors de 30 ans d'une répression féroce qui a fait des dizaines de milliers de morts dans le pays. Un passé pour lequel la jeunesse demande aujourd'hui des comptes. La nouvelle présidente a déclassé récemment des documents secrets et une justice transitionnelle s'organise. Insuffisant pour Chirou et Jessica. Ce militant autochtone et cette pro-indépendance se sont rencontrés il y a maintenant 3 ans lors du mouvement des tournesols.
Il faut une revanche. Nous devons nous rappeler les noms des victimes du peuple taïwanais et aussi de leurs bourreaux. Beaucoup de noms ont été oubliés. L'histoire est encore opaque. Pour ce qui est des bourreaux, nous savons très bien qu'il s'agissait à l'époque du gouvernement du Kuomintang. En ce qui concerne cette histoire, nous devons la rendre visible à tous, avoir une justice transitionnelle comme celle qui a été mise en place en Allemagne. Je crois que le nouveau gouvernement peut agir dans ce sens, mais en même temps, je n'ai pas beaucoup d'espoir. L'Allemagne l'a fait, mais mettre au jour les oppresseurs est une chose très difficile. Cependant, c'est une étape par laquelle nous devons passer.
Même si c'est en partie un problème politique et que Tsai Ing-wen peut sembler plus proche du peuple taïwanais, elle reste la présidente de la République de Chine. Les règles du jeu sont celles de la République de Chine, de la nation chinoise. L'île est encore en train de jouer avec les règles du jeu de la Chine, avec les relations inter-détroit et la Chine internationale. Les membres du DPP, le parti au pouvoir, ont dans le passé soutenu l'indépendance de Taïwan. Ils sont loin de ne pas comprendre cette problématique. Mais à partir du moment où ils sont entrés dans le système, ils ont changé. Ils ne sont plus aussi radicaux. Ils suivent plus les règles. Ils ont modifié certaines choses. Dans l'éducation, par exemple, qui n'est plus aussi sino-centrée qu'il y a 60 ou 50 ans. Mais ils ne doivent pas oublier d'écouter le peuple.
Après un an au pouvoir, la présidente Tsai Ing-wen fait face à de nombreux mécontents. En cause, l'ouverture trop ou pas assez rapide selon les points de vue de nombreux dossiers de société, du mariage homosexuel au débat sur le nucléaire. La semaine dernière, le gouvernement a aussi annoncé un plan de relance pour l'économie. Plus de 880 milliards de dollars taïwanais, soit près de 27 milliards d'euros, pour tenter de diminuer sa dépendance économique à Pékin. En effet, aujourd'hui, 40% des exportations taïwanaises sont destinées à la Chine. Tanguy Le Pesant est sociologue rattaché au CEFC, enseignant à l'Université nationale centrale de Taïwan.
On est à Taïwan dans une société qui se désindustrialise, comme on a pu voir. Donc, certains sociologues appellent ça des sociétés post-industrielles. Le tissu industriel a été délocalisé massivement en Chine, en Asie du Sud-Est. Et donc, il faut réinventer une dynamique économique à Taïwan. On en est là. Et donc, pour dire les choses assez rapidement et assez simplement, l'économie taïwanaise se trouve prise en étau entre la montée en puissance des marques dans le bas de gamme et le moyen de gamme des marques chinoises, qui prennent des parts de marché aux entreprises taïwanaises. Et dans le haut de gamme, les marques japonaises, coréennes, Samsung, bon, peut-être que Samsung va avoir quelques difficultés, mais jusque-là, c'était quand même l'exemple de réussite et le contre-exemple par rapport à ce qui ne s'est pas fait à Taïwan. Donc les grandes marques donneuses d'ordre, desquelles l'économie taïwanaise reste très largement dépendante. Voilà, donc ça c'est la situation qui fait que, avec en plus la délocalisation donc du tissu industriel à Taïwan, on a un chômage qui reste tout à fait acceptable du point de vue des standards actuels européens, on est à 4%. Le Taïwanais moyen retrouve assez facilement du travail quand il perd son emploi. Mais on a une croissance qui est moribonde autour de 1%, 1,5%. Donc on a des salaires qui stagnent depuis la fin des années 90. Donc pour la jeunesse taïwanaise, on est au même niveau de salaire cette année qu'en 1999 pour la première embauche. On est à 27 000 à peu près, un petit peu moins de 27 000 dollars taïwanais. Donc au taux de change actuel, avec un euro qui est très bas en ce moment, c'est 800 euros par mois. Donc voilà, comment faire pour faire repartir l'économie, les salaires à la hausse, comment faire pour arrêter la fuite des cerveaux taïwanais à l'étranger, comment faire pour que la nouvelle génération puisse s'acheter un appartement, ce qui est absolument impossible aujourd'hui. On est sur des prix parisiens à Taipei. Alors ensuite, pour ce qui est de la relation à la Chine, ça c'est assez intéressant parce que en 2010, moi j'avais fait une enquête, une grande enquête par questionnaire, et il ressortait qu'effectivement, la Chine était perçue non seulement comme vitale d'un point de vue économique, mais aussi bénéfique à Taïwan. Aujourd'hui, la Chine est toujours considérée comme vitale, c'est-à-dire incontournable. On ne peut pas se passer des échanges économiques avec la Chine, mais elle n'est plus considérée comme bénéfique à l'économie taïwanaise. Et donc ça, c'est l'échec du discours qui avait été installé, infusé dans la société pendant une dizaine d'années, un peu plus même, et qui voulait que le rapprochement des deux rives, le rapprochement économique, le rapprochement humain, soit mécaniquement bénéfique aux Taïwanais. Et ça, non seulement ça n'est pas le cas dans les chiffres, mais ça n'est plus le cas dans les consciences, au moins au niveau de la nouvelle génération, qui est quand même amenée à prendre les rênes de Taïwan dans, disons, la décennie qui vient. Une autre idée qui s'est très fortement renforcée à partir du mouvement des tournesols, peut-être un peu avant en fait, à partir du mouvement contre le monopole des médias en 2012, c'est l'idée que le rapprochement économique, contrairement à ce qu'a essayé de faire croire le gouvernement Kuomintang, a un coût politique. On ne se rapproche pas de la plus grande dictature du monde sans que ça ait un coût. Pour la petite démocratie taïwanaise, c'est 36 000 km² et c'est 23 millions d'habitants. Voilà. Et ça, il y a une conscience assez, assez fortement ancrée de cet aspect-là.
Réalisme économique versus conception idéologique d'une indépendance politique. Pour Rudjun, jeune actif taïwanais, la question se pose ainsi. Après plusieurs années d'études en France, il est de retour dans son pays, assez critique envers les différents mouvements de la société civile.
Passer ses journées à crier, cela a-t-il vraiment servi à quoi que ce soit? Les gens qui passent leur temps dans la rue à s'égosiller pour la démocratie, c'est très bien. Mais cela permet-il de construire des voies rapides, des réservoirs d'eau et d'autres grands projets? Les mouvements aux idéaux politiques peuvent-ils faire avancer ces développements? Bien sûr que non. Ces dernières années, beaucoup de Taïwanais s'inquiètent des relations interdétroites. Mais je suis personnellement très optimiste sur ce sujet. Je pense qu'étant donné la situation actuelle, aucune partie n'osera déclencher les hostilités.
Samia Ferrat, universitaire française, a animé à Paris un atelier entre étudiants chinois et taïwanais, dont Rujun. Preuve pour elle que le dialogue est possible, car les questions sont aujourd'hui les mêmes pour la jeunesse, qu'elle soit taïwanaise ou chinoise.
Ce que je constate à Taïwan, c'est qu'il y a beaucoup de divisions qui tournent autour du politique. Et donc souvent, on mobilise l'histoire et le passé pour construire des convictions politiques, des projets politiques. Donc ça, évidemment, ça m'intéresse parce que c'est mon sujet. Mais d'un autre côté, je pense que ce qui sera difficile pour les deux rives d'arriver à une solution si déjà on n'arrive pas en interne à construire quelque chose. Et ça, ce n'est pas uniquement Taïwan, c'est la France aussi. En France, on a les mêmes problèmes. Les divisions politiques entraînent nécessairement des divisions sociales. Et un pays divisé, c'est un pays qui n'a pas la force de construire un projet. Hein. C'est ce qu'on a en France par rapport à l'Europe, notamment. Et ça, c'est très grave. Donc je pense qu'à Taïwan, c'est un petit peu le même problème. En Chine, évidemment, comme c'est un pays qui a une dimension, qui a dimension d'un continent, on évite justement ces divisions, mais elles existent. On évite de parler de ces divisions et surtout de les laisser éclore. Donc c'est encore un autre problème. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si je suis optimiste par rapport à l'évolution des relations entre la Chine et Taïwan, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes de bonne volonté comme l'ont montré les étudiants qui ont accepté de participer à cet atelier. Il y a des personnes de bonne volonté qui veulent faire en sorte que les choses soient résolues et aillent dans le bon sens. Ça, j'en suis persuadée. Et je crois qu'il revient à la jeune génération de mettre en place, en fait, ces processus. Et je crois qu'elle a la volonté de le faire. Mais là, se pose la question du multipartisme, du fonctionnement de la démocratie. Est-ce que la démocratie doit nécessairement se nourrir de ces tensions politiques, de ces fractures politiques? Ça aussi, c'est des sujets qui sont très intéressants à réfléchir. Le propre de la démocratie, c'est qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent politiquement. Et donc, évidemment, quand on s'affronte, on se divise. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à un système démocratique qui permet vraiment de valoriser l'être ensemble, la construction d'un avenir commun? Ça, c'est vraiment les questions que doit se poser la nouvelle génération. Et c'est certainement les questions qu'on va se poser en Chine et qu'on se pose en Chine. Qu'est-ce que la démocratie? Je crois que si certains Chinois sont aussi rétifs par rapport au système démocratique, c'est parce qu'ils voient que à Taïwan et puis aussi en Occident et notamment en Europe, surtout en Europe et en France, eh bien le système démocratique est un système qui conduit de par son fonctionnement à des divisions politiques, à des divisions sociales. Et souvent, lorsque ça mène à des divisions ethniques, c'est encore le plus grave. Donc, en Chine, je pense qu'on réfléchit beaucoup aussi à ce qu'est la démocratie, à comment est-ce qu'elle doit fonctionner, comment est-ce qu'elle doit permettre d'avoir une énergie commune pour construire quelque chose, pour construire des institutions communes, pour construire un projet de développement commun où ne sont pas valorisés uniquement les intérêts partisans, personnels. Ça, c'est vraiment des questions qu'on doit aborder maintenant au XXIe siècle.
De nombreux défis attendent Taïwan ces prochaines années. Une nouvelle élection présidentielle en 2020. Des rumeurs laissent aussi entendre que la Chine pourrait décider dès cet automne d'une date pour la réunification de l'île. En attendant, la jeunesse continue de s'affirmer un peu plus taïwanaise, jour en jour. Yannick Dobby est artiste sonore. Il traque depuis 10 ans les bruits des identités multiples de l'île. Du métro de Taipei au village Atayal des montagnes du centre, il tisse le portrait de Taïwan, jeune, forte et complexe à la fois.
C'est une mosaïque. Quand je prends ma voiture, je conduis 2h30, j'arrive chez mes amis à Atayal, je suis sur un autre continent. J'arrive dans un écosystème qui est différent, des montagnes de moyenne altitude, des gens qui s'identifient très fortement à ce milieu naturel, cette géographie, les rivières, les forêts, les écureuils volants. On a une très forte imprégnation du quotidien, du langage, de la nature. Donc l'identité atayale, elle est un peu là. On est chez un peuple austronésien, donc avec cette famille de langues et de cultures qui n'a rien à voir avec le monde chinois. Mais on est très fortement à Taïwan sur cette île. Quand je suis à Taipei, je vais peut-être aller écouter des amis qui jouent du guqin, un instrument chinois à cordes de soie, jouer une musique millénaire ou plurimillénaire, je sais pas, qui n'a rien à voir avec Taïwan. Mais ce sont des gens qui habitent ici, qui se défendent comme Taïwanais, mais qui vont utiliser une musique qui est bien plus ancienne que leur immigration. Et tous ces mondes se rencontrent, évidemment. Donc c'est difficile à dire. En même temps, c'est peut-être quelque chose que j'ai vu aussi à Hong Kong, des jeunes qui veulent faire face à ça, qui sont peut-être moins pris par une pression familiale ou par une pression de l'éducation nationale avec un objectif prédéterminé, mais du coup ils se posent peut-être plus de questions. Ça, c'est peut-être une différence entre plusieurs générations que je sens, des gens qui ont la vingtaine, ou la quarantaine ou la soixantaine. Ça, on voit une grosse différence. À Taïwan, on a un changement réel avec ces jeunes-là.
Mmh.
Vous écoutez le magazine de la rédaction France Culture. On se quitte avec ces notes. Écoutez trois fois à Taipei de Yannick Dobie. C'était un reportage signé Sarah Maquet, réalisé par Annie Bro, intitulé Taïwan, un avenir made in China, avec bien sûr un point d'interrogation. Et nous sommes toujours avec nos deux chercheurs, Mathieu Duchâtel, qui travaille au Conseil européen des relations internationales, et Françoise Mangin au CERI Sciences Po. Une première question à vous, madame, qui n'est pas évidente et simple à la fois. Qu'est-ce que l'identité taïwanaise? Sarah l'a exploré à travers tout le reportage. On entend que la population est quand même très éclatée. Ces austronésiens dont on parle à la fin sont à peine 2% de la population, sont les vrais autochtones de l'île. Mais depuis, elle a été colonisée en permanence pratiquement, en tout cas beaucoup, beaucoup par les Chinois depuis au moins le XVIIe siècle. Il y a eu le gros épisode de la colonisation japonaise, en gros de 1895 à 1945. Et puis à nouveau, les Chinois, mais alors des Chinois presque radicalement différents, puisque c'était vraiment le Kuomintang et à ce moment-là la dictature de Chiang Kai-shek. Et c'est simplement depuis une trentaine d'années que ça devient un pays démocratique. Est-ce que 30 ans, ça permet de se forger une identité taïwanaise?
Je crois que l'identité taïwanaise, ou ce qu'on appelle plutôt là-bas la conscience taïwanaise, elle est née dans une période très particulière, les 4 ans pendant lesquels Taïwan est redevenue une province chinoise entre 45 et 49. Elle est née dans un divorce avec ce Kuomintang qui administrait Taïwan dès 1945 et une revalorisation à la lumière de cette administration prédatrice du Kuomintang, une revalorisation de la colonisation japonaise. Donc c'est dans à la fois ce rejet du Kuomintang avant même que le régime se replie à Taïwan et cette revalorisation de la colonisation japonaise qu'est née cette identité taïwanaise. Alors évidemment, de 49 à 87, au moment de la levée de la loi martiale, la sinité de la population taïwanaise a été systématiquement valorisée, puisque le régime du Kuomintang tirait sa légitimité de
représenter
sa prétention
la Chine,
de représenter l'ensemble de la Chine. Et donc l'histoire distincte, le passé distinct de Taïwan était systématiquement occulté dans les programmes d'histoire. Et avec la levée de tous les tabous en 1987, la démocratisation, cette levée des tabous a été concomitante de la vague, l'énorme vague de relocalisation de l'industrie taïwanaise sur le continent. Donc les Taïwanais ont fait en même temps l'expérience de pouvoir parler de tout ce qu'ils voulaient, et en particulier de leur passé, de pouvoir parler du massacre de 1947 auquel vous avez fait allusion.
On va peut-être expliquer ce que c'est dans deux minutes. Mais
et en même temps, ils ont découvert ce que c'était que la Chine, qui n'était pas du tout la Chine qu'on leur avait enseignée à l'école, qui était la Chine impériale, à la rigueur républicaine, jusqu'en 1945.
Donc ils ont découvert à ce moment-là la Chine communiste. Un mot peut-être sur le massacre quand même, effectivement, de 1947, parce que ça, c'est un épisode fondateur.
C'est un épisode
qui a vraiment traumatisé la population taïwanaise.
Oui. Donc, Taïwan est redevenue une province chinoise en 1945, et l'année suivante, en 1946, le gouvernement nationaliste est rentré de nouveau en guerre civile avec les communistes. Donc, ils n'avaient pas les moyens d'administrer correctement Taïwan, d'autant plus qu'ils se servaient des ressources de Taïwan dans leur
effort de guerre contre les communistes.
En février 1947, le 27 février, une vendeuse de cigarettes qui faisait de la contrebande a été prise à partie par des policiers, quelqu'un s'est interposé, et cette personne a été tuée. Et donc, ça a déclenché le lendemain, le 28 février, un immense soulèvement dans toute l'île, contre cette administration corrompue du Kuomintang. Et à partir du 9 mars, Chiang Kai-shek a fait envoyer la troupe pour massacrer littéralement la population taïwanaise. Alors, on n'a que des estimations, mais la plupart des historiens s'accordent pour dire qu'il y a eu au moins 10 000 morts.
Oui, c'est ça. On voit des chiffres qui vont de...
Le chiffre qui revient tout le temps, c'est autour de 20 000 morts.
Oui, c'est ça, de 18 000 à 30 000.
Plus, l'élite a été totalement décapitée parce qu'elle a soit été tuée, soit elle est partie en exil au Japon ou aux États-Unis. Et c'est dans ces conditions, deux ans plus tard, que le régime, vaincu par les communistes sur le continent, s'est replié à Taïwan.
Oui, donc on peut imaginer qu'il n'aimait pas les nouveaux colons, entre guillemets, qui arrivaient
Oui, nouveaux colons qui étaient chinois, mais qui étaient très divers. Parce que bon, la majorité venait des provinces autour de Shanghai, du Zhejiang, du Jiangsu, mais il y avait des gens qui venaient du nord, du Hubei, du Guangdong, de toutes les provinces.
Donc, et qui se sont repliés.
Qui se sont repliés et qui ont été labellisés sous une seule étiquette, les continentaux.
Et qui n'ont pas beaucoup plu à la population locale. On va peut-être parler de l'histoire politique plus récente avec vous, Mathieu Duchâtel, parce que avant l'arrivée de la toute nouvelle présidente, qui a donc, on a bien compris à travers le reportage de Sarah, des visées autonomistes, voire indépendantistes, il y a eu les années du président Ma qui ont été des années de rapprochement avec la Chine assez significative, notamment d'un point de vue économique. Est-ce que si on a vu véritablement à ce moment-là un rapprochement assez nouveau avec le pouvoir chinois?
Alors, ce qu'on a vu pendant les 8 années pendant lesquelles le Kuomintang est retourné au pouvoir entre 2008 et 2016, c'est la poursuite de l'intégration économique entre les deux rives du détroit de Taïwan, menée en grande partie par les forces du marché, par les entrepreneurs des deux côtés, mais cette fois-ci accompagnée du côté taïwanais par un soutien politique sans précédent et du côté de la Chine continentale, par une réceptivité aussi sans précédent dans l'idée que le gouvernement taïwanais pouvait accompagner un processus d'intégration économique qui mènerait à terme à un accord politique. Et ça a été pendant ces 8 années la question qui était toujours un petit peu sous-entendue à chaque fois que les gouvernements des deux rives signaient un accord. Ils en ont signé plus d'une quinzaine. C'était est-ce que cela nous mènera petit à petit à un accord d'abord puisqu'il s'agissait du Kuomintang et du Parti communiste, pour mettre fin à l'état d'hostilité entre les deux rives, c'est-à-dire pour replacer la question de Taïwan dans l'histoire de la guerre civile chinoise, et puis un traité de paix qui mènerait à une forme d'unification. Évidemment, le Kuomintang n'a pas pu aller jusque-là. Votre reportage l'a bien montré. Les étudiants taïwanais ont occupé le Parlement pour une question de supervision d'un accord qui avait été signé, qui allait être mis en œuvre, selon eux, sans aucune ouverture des négociations à la population, donc avec une très forte volonté de voir exactement ce qui se passait, quels étaient les véritables enjeux, jusqu'où ça les mènerait. Ce processus a été interrompu, mais quand même, en 2015, il y a eu ce moment un petit peu très spécial, on va dire, dans l'histoire des relations entre les deux rives, où le président Ma Ying-jeou, héritier Kuomintang des institutions de la République de Chine, rencontrait à Singapour Xi Jinping. Et puis ça s'est arrêté. Et puis ça s'est arrêté d'un seul coup. Et on est maintenant dans une période où Tsai Ing-wen et le DPP, le Parti démocrate progressiste, qui a pour la première fois de son histoire une majorité parlementaire, mène une politique complètement différente, qui évite les provocations quand même par rapport à la période.
Il faut bien le noter.
Le DPP était déjà au pouvoir entre 2000 et 2008, mais sans majorité parlementaire.
Le DPP d'abord 2000-2008, les ANEMA, le retour du Kuomintang, et à nouveau cette dame, Madame Tsai, qui vient du DPP.
Et qui était ministre des Affaires continentales de 2000 à 2004, donc c'est quelqu'un qui
elle
est déjà
bien
connu des Chinois.
Oui, Françoise Mangin.
Et je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que Tsai Ing-wen vient du DPP, mais Tsai Ing-wen a été formée comme la plupart des politiciens de sa génération, par le Kuomintang, parce qu'elle a été ministre aussi du premier président de la République élu au suffrage universel, et qu'on appelle le père de la démocratisation, Lee Teng-hui. Elle n'était pas membre du Kuomintang, elle n'a jamais été membre du Kuomintang, mais elle a été formée par Lee Teng-hui. Lee Teng-hui qui avait conduit d'une politique de démocratisation des institutions et d'indigénisation du Kuomintang. En 2000.
Ce qui veut dire donner du pouvoir aux vrais Taïwanais de Taïwan.
Oui, et faire passer Taïwan en premier. Avant toute autre considération et écarter l'horizon d'une unification possible. Voilà, c'est ça. Statu quo pour l'instant, comme le dit très bien quelqu'un d'un Taïwanais dans votre reportage. Le prix d'indépendance est trop élevé à payer et le statu quo est un moindre mal. À partir de 2000, il y a eu une refonte complète de l'échiquier politique parce que justement, Lee Teng-hui est passé à l'autre extrême de l'échiquier politique, côté indépendantiste. Les années de Chen Shui-bian ont été des années très dures parce que, n'ayant pas de majorité au Parlement et le Kuomintang pratiquant une obstruction parlementaire systématique, Chen Shui-bian s'est radicalisé et a véritablement mis en avance l'indépendance des jurés de Taïwan. Tsai Ing-wen, aujourd'hui, ça n'est pas du tout ça.
La nouvelle présidente, elle est
pas du tout
plus modérée
dans sa façon
de faire.
Elle est pour le maintien du statu quo.
Oui, et d'ailleurs, ça pose une question de Sarah Maquet. Parce qu'on entendait dans le reportage, après le mouvement des tournesols, il y a eu effectivement la création de nouveaux partis qui sont quand même plus pro-indépendance. Et il y a eu une alliance pour qu'au niveau du Parlement, il y ait une majorité pour le DPP, alors que ça n'avait pas été le cas, comme on l'a vu depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on sent quand même un mécontentement aussi sur cette position plutôt du statu quo de la présidente. Est-ce qu'on lui reproche ça? Est-ce qu'on voudrait, selon vous, qu'elle aille plus loin vers l'indépendance?
Françoise Mangin.
Oui, certains lui reprochent le fait qu'elle ne mette pas en avant systématiquement toujours le nom de Taïwan, le fait qu'elle ait nommé comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un du Kuomintang, elle n'est pas du tout dans la provocation avec la Chine.
Et pourtant, quand même, les relations se tendent un peu avec la Chine, en tout cas depuis l'arrivée de Donald Trump. Alors c'est peut-être pas lui qui en est à l'origine, mais Mathieu Duchâtel, vous êtes un spécialiste quand même des questions de défense. On voulait aborder ce point qui est crucial, évidemment. Que peut faire Taïwan pour se défendre face à la Chine? Alors tout dernièrement, la présidente a annoncé que Taïwan allait construire ses propres sous-marins. Est-ce que ça, c'est un acte fort qui est mal vu par Pékin?
C'est un acte fort, mais c'est un acte qui ne vient pas de nulle part non plus. Il faut se rappeler qu'en 2001, quand Chen Shui-bian était président, l'administration Bush, à l'époque, avait autorisé la vente à Taïwan d'un certain nombre d'armes pour une valeur totale de 18 milliards de dollars, dont des sous-marins diesel que les États-Unis ne fabriquent plus. Donc ça nous ramène ce programme de sous-marins au moins à l'année 2001. Depuis, Taïwan n'a pas pu se procurer de sous-marins. Et Tsai Ing-wen, pendant sa campagne, a mis en avant une nouvelle politique industrielle autour de 5 grands secteurs stratégiques, dont les industries de défense, et a adopté ce plan de construction navale qui inclut donc des 8 sous-marins dont Taïwan aurait besoin, mais qui ne seraient pas produits avant les années 2025-2030. Donc on n'en est quand même pas encore là. Ce qu'il faut voir, c'est bien sûr, c'est que par rapport à la période où la démocratisation a commencé, au milieu, disons, la première élection présidentielle au suffrage universel direct en 1996, c'est que l'équilibre des forces dans le détroit de Taïwan a complètement changé. En 1995-1996, Taïwan avait encore une supériorité aérienne, une supériorité maritime. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le budget de défense taïwanais stagne depuis 2000. Il est autour de 10 milliards de dollars. Là, il y a maintenant une ambition annoncée par le ministère de la Défense de faire remonter les dépenses d'armement du côté taïwanais. Mais c'est vrai que l'équilibre des forces est complètement défavorable.
Oui, la Chine est devenue beaucoup plus puissante.
Tout à fait, tout à fait. Et ce qu'il faut voir dans ce programme, c'est la volonté taïwanaise de reprendre ces dépenses d'armement dans une logique un petit peu asymétrique. C'est-à-dire, pour empêcher une invasion chinoise, gagner n'est pas possible, mais ne pas perdre reste une possibilité.
Et dans l'équilibre des forces, justement, est-ce que la nouvelle élection aux États-Unis de Donald Trump, avec l'appel qu'il a osé prendre de la présidente taïwanaise et une potentielle vente d'armes au printemps des États-Unis à Taïwan, est-ce que cet équilibre des forces, aujourd'hui, il a un peu changé, il est un peu remis en cause ou pas vraiment? On en est où? Est-ce que ça a chamboulé quelque chose, l'élection américaine?
L'administration Obama a été très prudente sur les ventes d'armes à Taïwan. L'administration Trump, on peut se poser des questions sur ce qu'elle va faire. Il y a évidemment un énorme facteur d'incertitude et de surprise dans le fait que l'équipe n'est pas vraiment en place, qu'il y a eu des annonces dans un sens puis dans l'autre. On aura un sommet entre Xi Jinping et Donald Trump en Floride le 7 avril. La question de Taïwan va bien sûr être très importante sur l'agenda entre les deux parties. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que les Américains reprendraient une politique de vente d'armes à Taïwan plus ambitieuse que pendant l'administration Obama. C'est tout à fait possible. Il faut voir que si c'est le cas, il y aura un impact extrêmement fort sur les relations entre les États-Unis et la Chine.
Madame Mangin, est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi sur ce qui fonde finalement les relations entre les deux pays, qui est ce fameux consensus de 92, où les deux conviennent qu'il n'y a qu'une seule Chine, alors qu'ils sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Enfin, Pékin pense l'inverse de ce que pense Taipei.
Alors, ce consensus de 92, c'est quelque chose de très, très complexe. D'abord parce que c'est un consensus qui n'a pas existé en 92. En 92, se sont ouvertes les premières négociations entre deux organismes ad hoc, chinois et taïwanais, précisément parce qu'il n'y a pas de relation de gouvernement à gouvernement. Et pour préparer la première rencontre entre les présidents de ces deux associations, en 92, deux délégations chinoises et taïwanaises se sont rencontrées à Hong Kong et ont décidé que l'ouverture de négociations à l'époque, c'était par exemple pour retrouver du courrier égaré. Enfin, c'était des questions extrêmement pointues. Les négociations n'aborderaient pas la question politique et qu'ils étaient d'accord pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur la question politique. C'est à peu près tout ce qui s'est passé en 92. En 2000, Chen Shui-bien, président indépendant, du DPP, pro-indépendance, disons, est élu. Il est élu en mars, il entre en fonction en mai. Et pendant cette période d'intérim, un ministre sortant du Kuomintang a dit qu'en 92, il y avait eu un consensus entre les parties chinoises et taïwanaises pour considérer qu'il n'existait qu'une seule Chine et que chaque partie avait une interprétation différente de cette Chine. Voilà. Pendant les 8 années de présidence Chen Shui-bian, le DPP a refusé de reconnaître ce consensus. Ma Ying-jeou, pendant 8 ans, a fondé toutes les négociations avec la Chine sur ce consensus qui est très souvent déformé, y compris par le Kuomintang, en consensus pour une seule Chine, en oubliant la deuxième partie, deux interprétations. Et la partie chinoise a fait de ce consensus, de la reconnaissance de ce consensus par la nouvelle présidente Tsai Ing-wen, la condition sine qua non pour reprendre langue via
des, donc pour l'instant, elle ne l'a pas encore reconnue, alors.
Elle refuse de le reconnaître. Elle a juste reconnu que, effectivement, à Hong Kong, en 92, on s'était mis d'accord pour ne pas être d'accord. Mais elle refuse de reconnaître qu'il n'existe qu'une seule Chine.
C'est donc effectivement très, très compliqué pour les deux pays, ne serait-ce que de se parler. Pourtant, en matière économique, Françoise Magin, vous connaissez aussi très bien ces questions-là, il y a quand même eu un vrai rapprochement. Et puis surtout, Taïwan est d'une dépendance extrême vis-à-vis de la Chine. Donc prendre son indépendance est très difficile pour l'économie taïwanaise.
Oui, elle est dépendante économiquement. Il faut voir aussi qu'elle a participé, parce que la première vague de délocalisation des petites entreprises entre 87 et 92, puis des grandes entreprises à partir de 92, les entreprises taïwanaises ont participé au décollement et au développement, ne serait-ce que de toutes les provinces côtières de la Chine.
Donc c'est une dépendance partagée.
Si toutes les entreprises taïwanaises se retiraient du marché chinois, il y aurait pas mal de Chinois qui perdraient leur emploi.
Il y a un million de Taiwanais qui vivent en Chine, 3 millions,
on ne sait pas exactement, qui vivent en Chine.
Qui ont des entreprises et qui emploient effectivement de la main-d'œuvre chinoise.
Ne serait-ce que l'énorme entreprise de semi-conducteurs Foxconn,
qui est en Chine,
qui est en Chine
et qui est taïwanaise.
Mais est-ce que le problème aussi peut-être économique, c'est que on l'entendait avec Tanguy Le Pesant, il y a beaucoup de délocalisation, donc l'argent, on va dire, c'est assez complexe parce qu'on passe, alors beaucoup d'entreprises taïwanaises sont en Chine ou à Hong Kong, passe par là et après exporte à l'international. Oui. Comment Taïwan pourrait faire économiquement
Taïwan maintenant est une industrie, enfin comme l'a dit Tanguy Le Pesant dans le reportage, Taïwan est une économie post-industrielle. Et c'est une économie qui investit dans les services, dans la recherche et le développement, dans le développement durable et dans des choses comme ça. Ce qui est aussi assez paradoxal qu'il faut souligner, c'est que la grosse vague, les délocalisations ont eu lieu entre 87 et 2007, sans qu'il y ait de relations directes, aériennes ou maritimes directes. Et c'est à partir de 2008 que Ma Ying-jeou a complètement libéralisé les relations entre les deux rives du Détroit, à un moment où pour beaucoup d'entreprises, toutes les entreprises de faible valeur ajoutée, devaient faire le choix de relocaliser au Bangladesh, au Cambodge, en Asie du Sud-Est en général. Donc à un moment où ça n'était plus très profitable d'investir en Chine.
On va passer les dernières minutes à réfléchir à la question de savoir jusqu'où peuvent aller finalement la Chine et Taïwan. Parce que c'est quand même la principale question. On a bien compris que la présidente était relativement modérée, mais malgré tout, il s'est dit des choses importantes. Par exemple, je crois que c'est le ministre de la Défense qui a dit que finalement, avec des missiles à moyenne portée, Taïwan était tout à fait capable d'atteindre la Chine. Mathieu Duchâtel, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ou une chance, on ne sait pas, que Taïwan, dans un avenir relativement proche, puisse être un État indépendant, reconnu?
Je ne pense pas que l'indépendance soit une option crédible pour Taïwan dans un futur prévisible, on va dire. À moins qu'il se passe des transformations complètement radicales en Chine. Mais c'est quelque chose qui échappe un peu à ce que Taïwan peut accomplir par ses propres forces, même avec un soutien américain, voire japonais. Là, le scénario pour les prochaines années, c'est que le cœur de la politique de Pékin à l'égard de Taïwan va être quand même de faire échouer Tsai Ing-wen. Je pense que l'horizon pour Pékin, c'est la prochaine élection présidentielle et législative. Depuis son élection, parce qu'elle ne reconnaît pas le consensus de 92 et que c'est la précondition mise par Pékin pour renouer un dialogue politique, la Chine a déjà un peu augmenté la pression, en particulier en diminuant le tourisme vers Taïwan.
Il y a 6 millions de touristes, non, à peu près, je crois, de Chinois qui vont à Taïwan. C'est beaucoup, hein.
Il me semble que c'est proche de 1 ou 2 millions. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nombre a diminué de 50% depuis son élection et que c'est pour des raisons politiques. C'est pas la seule chose que Pékin fait pour monter la pression sur Tsai Ing-wen. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que Pékin pourrait faire beaucoup plus. C'est l'année du 19e congrès du Parti communiste. On sait qu'au moment de ce 19e congrès, une annonce importante de politique taïwanaise sera faite. On peut penser, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans ce reportage, que cette annonce sera liée à une date. C'est quelque chose qui a été dans le débat en Chine depuis longtemps. En 2004-2005, la question c'était, mettons ou pas une date? Donne-t-on à Taïwan une date pour la réunification? Et la réponse a été non, on ne donne pas de date, parce qu'une date donnerait trop de pression sur Taïwan et créerait trop de tensions. Est-ce que la Chine aujourd'hui peut annoncer une date? Ce serait quelque chose qui pourrait mener à une crise.
Françoise Mangin, il nous reste 30 secondes, mais oui. Vous pensez que c'est
possible? Oui, il faut aussi rappeler quand même que Taïwan est complètement, bien que très intégré dans les échanges internationaux, est complètement isolé sur la scène internationale et en particulier exclu de toutes les agences de l'ONU, même les agences spécialisées, et exclu par exemple d'Interpol.
Est-ce qu'il y a des pays qui reconnaissent encore Taïwan?
Oui, il y en a 21, ce sont que des donc petits pays qui n'ont pas de poids sur la scène internationale.
Seulement le Vatican en Europe.
Voilà, donc c'est vraiment pas grand chose, il y a encore fort à faire pour cette petite île si elle veut vraiment un jour être totalement autonome. Merci à tous les deux, Françoise Mangin, Mathieu Duchâtel, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Taïwan, un avenir made in China. C'était un reportage de Sarah Maki, réalisé par Annie Bro à la technique. Ce soir, Yanis Djoudad, merci à tous les trois. Vous pouvez réécouter bien sûr cette émission, la podcaster aussi, la commenter sur notre site franceculture.fr. Depuis la diffusion de ce magazine, le 31 mars dernier, Sarah, la société taïwanaise poursuit ses avancées démocratiques.
Oui, en effet, Tara, en mai, la Cour constitutionnelle taïwanaise a dit oui au mariage homosexuel. Le gouvernement qui soutient la réforme a maintenant 2 ans pour l'appliquer. Taïwan est ainsi devenu le premier pays asiatique à légaliser le mariage gay.
Alors, qu'en est-il des relations entre Taïwan, les États-Unis et la Chine? Pas de prise de position officielle de Trump vis-à-vis de Taïwan, Sarah?
Non, aucune prise de position officielle. Les États-Unis continuent de reconnaître le principe de la Chine unique. Pourtant, Washington a annoncé fin juin la vente pour 1,3 milliard de dollars d'armement à Taïwan. Et ce, en vertu du Taiwan Relations Act qui engage les États-Unis dans la défense de l'île. La dernière vente d'armes de la sorte remonte à l'administration Obama en décembre 2015. La Chine, bien entendu, dénonce ces ventes. Autre initiative en cours qui alimente la colère de Pékin, un projet de loi américain qui permettrait aux navires de la marine US de faire des arrêts réguliers dans les ports de Taïwan. Alors la ligne américaine ne change donc pas radicalement avec Trump. Une question tout de même reste en suspens. Le nouveau président américain pourrait peut-être en effet utiliser dans les prochains mois Taïwan pour faire pression sur Pékin, notamment si la Chine ne sanctionne pas la Corée du Nord. Alors on le voit, Taïwan reste en fait une carte diplomatique qui peut être jouée à un moment par Washington ou Pékin.
Et pendant ce temps-là, Taïwan, la petite île, poursuit ses propres initiatives diplomatiques.
Oui, alors l'île a perdu mi-juin le soutien du Panama, qui a préféré reconnaître le principe de la Chine unique pour renforcer ses liens avec Pékin. Alors seuls 20 pays reconnaissent encore aujourd'hui Taïwan comme un pays à part entière. Qu'importe pour Taipei, qui continue de se singulariser vis-à-vis de la Chine. Dernier coup d'éclat en date après le mariage homosexuel, la prise de position de Taïwan vis-à-vis de Liu Xiaobo. Taipei se dit prêt à accueillir et à soigner le dissident chinois condamné en 2009 à 11 ans de prison pour subversion, hospitalisé fin juin à cause d'un cancer en phase terminale.
Merci Sarah Maquet, votre magazine de la rédaction est à retrouver sur notre site franceculture.fr.